Chapitre 21 L'enfer de Tomble. Elisha passa un épouvantable hiver. 10 fois, il tenta d'accéder à la falaise, se battant contre la neige et le froid. 10 fois, sa mère la récupéra rouée de fatigue, des larmes gelées autour des yeux. La grotte était à mi-hauteur de cette falaise de neige qui ressemblait à un glacier imprenable. En février, pourtant, on crut que le dégel ne tarderait pas. Il y eut quelques beaux jours. Les familles des basses branches purent échanger des visites, mais le lac et la falaise restaient inaccessibles. Une semaine plus tard, la neige tombait à nouveau et l'espoir d'Eli faillit être étouffé par ce manteau blanc. Le mois de mars fut glacial, si bien que le 1er avril, il était toujours impossible d'atteindre le refuge de Tobie. Le 10 avril, le soleil reparut. Une douce chaleur enveloppait l'arbre entièrement. L'eau dégoulinait autour de la maison d'Eli. Avec douceur, Isha parlait à Elisha. Toutes les deux accroupies sur le pas de la porte ronde de leur maison, elles regardaient quelques rayons se refléter dans les flaques et les ruisseaux. Espère seulement. Il n'y avait rien d'autre à faire. Quand on savait que Tobie était enfermé depuis 4 mois et demi avec un pauvre sac de nourriture. Les calculs ou le réalisme ne lui laissaient pas la moindre chance de survie. Mais, dans le cœur d'Elisha, l'espoir luisait, lui faisait croire à l'impossible. Le 16 avril, Elisha réussit à tracer un chemin jusqu'au lac, puis jusqu'à la falaise. Elle était là, au pied d'un mur de neige mouillé, à chercher un moyen de grimper. Alors, elle entendit une voix qui appelait. Elle allait crier un retentissant « Tobie !» Mais 4 grands lascars surgirent à côté d'elle, trempés de neige fondue, des bottes au chapeau. « On t'appelle depuis 2 heures, petite. On a suivi tes pas dans la neige. » C'était une misérable patrouille de Jomitch qui déjà se remettait en charge de Tobie. « Qu'est-ce que tu fais là, la mioche ?»« Et vous ?» demanda Elisha. « On cherche le petit Lolness. Réponds, qu'est-ce que tu fais là ?»«
J'habite à côté avec ma mère. Je regarde si les puces d'eau sont de retour dans le lac. »
C'était la première excuse qui lui était venue. Elle devait largement suffire au cervelle allégé qu'elle avait devant elle.
« Si tu nous trouves, Tobie, je t'épouse !» dit un zigoto bossu dont le nez bourgeonnant cachait presque les yeux.
Elisha répliqua « C'est motivant, j'ouvrirai l'œil. » Il soufflait dans ses mains pour les réchauffer. Cela formait un petit nuage de vapeur blanche entre ses doigts. Groné approcha.
« Je peux te faire la bise en attendant ?»«
Je ne le mérite pas encore. Attendez que je trouve votre petit Lolness et ce sera ma récompense, » dit-elle en s'écartant un peu. Groné fut très flatté. Elisha fit mine de rentrer chez elle. Ayant tracé quelques pas dans la neige, elle entendit une phrase à propos du professeur et de sa femme. Les 4 hommes parlaient très fort. Cette phrase faillit foudroyer Elisha dans son élan. Elle n'avait même plus la force de marcher. Elle arriva enfin dans la maison aux couleurs et s'écroula dans les bras de sa mère. Le lendemain, 17 avril, à midi, Elisha se tenait devant le paquet de neige qui bouchait l'entrée de la grotte. Elle gratta tout l'après-midi, surveillant d'un œil les rives du lac. À 6 heures, la petite main d'Elisha traversa le dernier rempart de neige. Son bras était passé de l'autre côté. Elle s'arrêta. Pas un bruit ne venait de l'intérieur. Elle creusa alors avec furie, poussant des cris rageurs, faisant voler la neige autour d'elle. Elle n'avait plus peur de personne. La lumière du jour se glissa dans la caverne. Elisha la suivit en rampant. Le feu était encore chaud. Arrivant de la clarté du dehors, Elisha ne voyait rien. Sa voix n'articula qu'un très faible appel. « Tobie ?» Aucune réponse. Elisha ne savait pas où elle posait les pieds. Ses yeux ne parvenaient pas à s'habituer au noir. Il sentit devant elle un fagot de bois. Elle le prit dans ses mains, marcha jusqu'au foyer à peine rouge. Elle jeta le fagot sur la braise. En peu de temps, de longues flammes s'élevèrent. Elisha les suivit des yeux. Alors, elle vit le plafond et les murs étincelants de lumière. D'un seul coup, elle découvrit l'œuvre de Tobie. L'immense fresque peinte s'étalait en rouge et noir sur toute la surface de la grotte. Elisha ne put la quitter des yeux. Elle se croyait entrée dans le cœur rougeoyant de Tobie. « Ça te plaît ?» dit une faible voix à côté d'elle. Elle se précipita vers la voix. « Tobie !» Tobie était là, allongé contre la paroi. Il était pâle. Il avait les joues creuses, la bouche sèche, mais au fond de l'œil brillait toujours une comète immobile. « Je t'attendais, » dit-il. Tobie n'avait pas encore vu Elisha pleurer. Ce jour-là, elle rattrapa le retard. Elle posa son front sur la poitrine de Tobie. Il lui disait « Arrête, arrête. Qu'est-ce qu'il y a de triste? Regarde, je vais bien. » Il lui tendait un mouchoir taché de peinture rouge. Elisha ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Tobie sentait contre lui la pulsation des sanglots. Elle plongea finalement dans le mouchoir et en sortit les joues couvertes de rouge. Petit à petit, elle se calma, leva les yeux vers la voûte. Tobie expliqua. « C'était pour m'occuper. Il y a des gens qui peignent des tombeaux pour s'y coucher. Moi, pendant 4 mois, je peignais des fenêtres pour voir la vie dehors. » Elisha écarquillait les yeux. Oui, c'était comme une verrière ouverte sur le monde. Elle s'approcha du mur, le visage barbouillé de peinture. « Elisha ? » Oui, j'ai un petit creux. » Tobie n'avait rien mangé d'autre que du moisi depuis 17 jours. Elisha disparut aussitôt. Tobie poussa un hurlement désespéré. « Non ! Me laisse pas ! Reviens !» Elle se précipita à l'intérieur, inquiète. Tobie ne pouvait plus rester seule un seul instant. Elle était juste allée prendre le paquet qu'elle avait apporté. « Je reste maintenant, Tobie, n'aie pas peur !» Elle déballa le papier imbibé de beurre. Tobie sourit enfin. Il avait devant lui le plus épais tas de crêpes au miel qu'il avait jamais vu. Il fallut 3 jours pour que Tobie soit à nouveau sur pied. Il avait réussi pendant ses 4 mois et demi d'enfermement à garder une activité régulière pour éviter que son corps ne sèche et ne se rabougrisse. La souplesse revint assez vite. Il passa du temps à faire le papillon de nuit au bord du lac, agitant les bras et sautillant. Elisha ne le quittait plus. Tobie avait besoin de cette ombre qui le regardait courir sous la lune. Réfugié sur une corniche en haut de la falaise, il s'asseyait enfin. Tobie sentait sous eux, dans la nuit, le bouillonnement du printemps. Il respirait profondément pour rattraper le retard. Elisha lui racontait les événements de l'hiver. Chez les Aseldor, Mia allait très mal. Depuis le départ de l'ex-Olmec, parti à la recherche de ses parents, elle s'était couchée sur un petit matelas dans la pièce principale de Seldor et n'en bougeait pas. Elle ne mangeait presque rien, ne parlait plus. Toute la famille découvrait le lien secret entre l'ex et Mia. Au début, ses parents la secouèrent un peu. « Ce sont des histoires qui arrivent souvent. Il ne faut pas en faire un drame. » Mais, au bout d'une semaine, ils comprirent que de telles histoires n'arrivent pas souvent. Une fille qui se laisse mourir pour un garçon disparu. Alors, ils entourèrent Mia d'une très grande patience. C'est certainement cette patience qui l'aida à ne pas s'éteindre entièrement. Mai, sa sœur, ne s'éloignait jamais d'elle, dormait au pied du lit avec la main dans la sienne. Elle comprenait tout ce chagrin, elle le vivait. Les dernières nouvelles qu'avait obtenues Elisha dataient de février. L'ex n'était pas réapparu, mais l'état de Mia n'empirait plus. Elle avait les yeux ouverts, acceptait une soupe le matin. Ses frères chantaient le soir dans la pièce voisine, et on surprenait un doigt de Mia qui battait la mesure sur le drap. Sa grande sœur continuait à la veiller, discrète et silencieuse. Elisha racontait cette aventure, mais elle avait sur la conscience le poids démesuré de ce qu'elle ne disait pas. La phrase qu'elle avait entendue au bord du lac, prononcée par les hommes de Jomitch. Le 4e jour, Toby parla de ses parents.
Pendant tout cet hiver, j'ai pensé à eux. Je n'ai rien à attendre. Ils ne viendront pas me chercher.
Peut-être que tu as raison, dit Elisha ému. Il ne faut plus attendre.
S'ils ne viennent pas me chercher, c'est moi qui dois y aller.
Elisha sursauta.
Aller où ?
Remonter vers les cimes, les trouver, et sortir des pattes du gros Joe Mitch.
En parlant, Toby observait Elisha. Elle avait baissé ses longs cils, elle regardait le sol.
Elle voulait parler. Il comprit alors qu'elle savait quelque chose.
Toby, j'ai entendu une phrase sur tes parents.
Toby frémit et chercha le regard d'Elisha.
Ils ont été condamnés, ajouta-t-elle. Ils seront tués le premier jour de mai.
Le silence ne dura pas.
Toby attrapa Elisha par les épaules. Ils sont où ?
Ce n'est pas le problème. Il faut que tu te protèges.
Elisha, ils sont où ?
Il la secouait.
Je t'en prie, fais attention à toi, Toby. On te cherche toujours. Elisha !
Toby, j'ai peut-être une idée pour te mettre à l'abri.
Je pars. Je serai dans les hauteurs dans 3 jours. On est le 21. J'aurai une semaine pour les trouver. Adieu, Elisha.
Il la lâcha. Il se levait déjà.
Écoute-moi, criait Elisha. Dans 10 jours, ils seront morts si je ne les aide pas. Je pars vers les hauteurs.
Toby, ils ne sont pas là-haut.
Toby se retourna. Ils sont où alors ?
Ils sont à Tomble, murmura Elisha. Ils sont au fort de Tomble.
Toby pâlit. Tomble n'était qu'à quelques heures de marche. Ses parents étaient donc tout près de lui. Et pourtant, Toby se sentit vaciller. Il connaissait Tomble par le vieux Viggo Thornett qui y avait passé 10 années, dont il ne pouvait même plus parler. Quand on disait Tomble à Thornett, sa bouche commençait à trembler, puis tout son corps. 10 ans de captivité à Tomble détruisait un homme. Thornett le reconnaissait lui-même. Il avait fait des bêtises dans sa jeunesse. Toby ignorait le détail de ses bêtises. Mais Sim Lolnes, qui en savait plus, reconnaissait que Thornett n'avait pas toujours été ce vieillard doux et bienveillant, réfugié chez un neveu moncheur de larves. Soyons plus clairs encore. Thornett avait été un des pires brigands de larves, un bandit de haute souche. Il avait ensuite passé 10 ans à Tomble, à l'époque où la prison était encore sous le contrôle du Conseil de larmes. Cela ressemblait déjà à un enfer. Mais c'était un vrai club de vacances par rapport à ce que Tomble était devenu sous la botte de Joe Mitch. En dehors de la question des chances de survie dans cette forteresse, un point était entendu. On ne s'échappait pas de Tomble. Ça n'était jamais arrivé. Ça n'arriverait jamais. Tomble était une boule de gui suspendue au-dessus du vide. Elle poussait dans l'arbre comme un parasite, suçant sa sève et buvant son eau, accroché à une branche par une seule petite patte sous la surveillance de 10 hommes armés. À la moindre révolte, on n'avait qu'à couper cette attache et laisser la prison sombrer dans le vide. Cela s'appelait le plan final. En une seconde, tout ce que Toby savait sur le fort de Tomble entra dans son esprit comme une décharge. Ses rêves s'effondraient. La nuit passa sans sommeil, dans un silence de deuil au bord du lac. À l'aurore, Elisha était presque soulagée. Elle avait dit la vérité et Toby ne paraissait pas décidé à faire des tentatives impossibles. Il connaissait assez ce qu'on disait de la boule de gui. 10 jours pour faire sortir de ce piège un savant maladroit et sa femme. Il faudrait Toby 10 ans au moins, rien que pour entrer. Sauf si... Elisha pria pour que l'idée qui venait de l'effleurer n'atteigne pas Toby. Elle la chassait en battant des cils et en répétant « non, 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 non » au fond d'elle-même. Mais déjà, le visage de Toby prenait une teinte nouvelle. Elle n'y pouvait rien. Il y avait entre leurs deux cœurs un passe-branche étroit où les pensées circulaient librement. Il regarda les yeux d'Elisha. Il avait décidé de se livrer à Joe Mitch. Elisha eut un tressaillement. « Si je me rends, » expliqua inutilement Toby, « je serai amené à Tomble en quelques heures, et la moitié du chemin sera faite. Tu feras l'autre moitié dans un cercueil,
Il fallut une journée et une nuit à Elisha pour comprendre que Tobie ne reculerait pas. S'il ne tentait rien pour ses parents, le reste de ses jours perdrait toute valeur. Sa vie serait comme un objet décoratif posé sur une cheminée. La question n'était pas de réussir, elle était d'avoir risqué sa vie pour eux. Les imbéciles appelaient ça l'honneur. Tobie appelait ça autrement, peut-être l'amour, même s'il n'aurait jamais prononcé ce mot étourdissant. La dernière nuit passa comme une veillée d'armes. En l'écoutant parler, au fond de la grotte peinte, Elisha avait posé sur ses genoux les pieds de Tobie, et avec un poil de plume trempé dans l'encre de chenille bleue, elle dessinait sur la plante du pied, dans le sens de la longueur, un trait à peine visible qui allait des orteils aux talons. Tobie se laissait faire. « C'est ma peinture de guerre. » Dans sa petite enfance, avec son ami Léo Blou, il se peignait parfois des signes sur les mains et les épaules. Léo avait toujours été un enfant sombre, parfois violent. La mort de sa mère quand il était tout petit, puis celle de son père, 2 ans après, lui laissait une blessure terrible dont il ne parlait même pas à son meilleur ami. Il semblait désormais que cette plaie au cœur s'était infectée. Elisha se taisait. Elle avait 2 nattes qui frôlaient ses yeux. Tobie savait qu'elle portait sous le pied ce même trait bleu qui ne se voyait que la nuit et diffusait une lueur bleue. « C'est un secret ?» Elisha hocha la tête et posa le poil de plume sur le rebord de l'encrier. « Moi aussi, j'ai un secret, » dit Tobie. Et il raconta. Il s'était retrouvé seul au bout de la branche cassée et qu'il avait entendu les lamentations de Chatoun sur son camarade disparu, Tobie avait essayé de voir clair dans le plan de son père pour ne rien oublier des 3 indices qu'il avait donnés. 1. Il avait facilement pu expliquer la fausse trahison de Simlolness qui avait pour seul but de permettre à Tobie de s'échapper. 2. Il avait aussi déchiffré au dernier moment la fameuse phrase d'avertissement « Ne recommence pas à te blesser » qui lui indiquait la branche creuse et au pied, l'endroit où, grâce à sa petite taille, il pourra échapper à ses gardiens. 3. En revanche, il n'arrivait pas à comprendre la violence de Sim contre lui, son propre fils, quand il lui avait demandé de parler correctement à ce taré de Limer. C'était encore quelque chose qui ne lui ressemblait pas. Il fallait donc sûrement y voir un signe ou un appel. Plus tard, alors que Tobie était déjà en cavale et que Léo Blou entrait dans le salon de Maître Clarac sous l'œil maternel de Milouvka, Jomitch s'était mis dans une grosse colère. Tobie vivant, Mitch ne pouvait supporter cette idée. Les colères de Jomitch ressemblaient fort à des coliques. Il se tenait le ventre, devenait tout rouge, faisait 1000 bruits énigmatiques entre flatulence et bêlement. Par inadvertance, son mégot jaillit de ses lèvres à la vitesse d'une fusée. Il atterrit dans le décolleté de Milouka, qui l'écrasa discrètement en bombant le torse. Quand il retrouva son calme, Jomitch se resta prostré quelques minutes. Puis il tourna très lentement ses yeux globuleux vers Sim. Il y a certains sujets sur lesquels Mitch ne se faisait jamais avoir. Il se rappelait parfaitement que Sim Lolness n'avait pas été fouillé. La diversion de Sim n'avait pas suffi. La pierre de l'arbre était là. Mitch fit un geste vers Thorn qui se jeta vers le professeur. Maya regardait son mari. Tobie était vivant, mais Mitch allait posséder la pierre. Elle aurait bien sûr donné 20 pierres de la même valeur en échange de la vie de son fils. Mais la puissance promise au gros Mitch grâce à cette fortune était une catastrophe pour toutes les vies suspendues à cet arbre. Thorn fouillait Sim frénétiquement. Même tout nu, dans ce petit salon, avec 2 hommes qui épluchaient ses habits, le professeur gardait maintenant un grand sourire. Son plan avait marché. On ne trouva rien sur lui. Rien d'autre que 2 boules de gomme et un crayon. Limer écrasa les boules de gomme sous son pied. Rien à l'intérieur. La boule de gomme collait à son talon. Limer dansa d'un pied sur l'autre en essayant de se dépêtrer de la patte qui l'engluait au sol. Mitch, devant ce spectacle, avait les yeux exorbités de fureur. Sim affichait un petit sourire indulgent. Au même instant, dans sa fuite éperdue, Toby passait la main dans ses cheveux trempés de sueur et y trouvait la même boule de gomme mâchée, collée à l'arrière de sa tête, à l'endroit exact où son père l'avait violemment frappé. Mêlé à la palpe collante, il sentit un objet plus dur. Il l'arracha de ses cheveux et découvrit, toute poisseuse entre ses doigts, la pierre de l'arbre. Maintenant, dans la grotte du lac, il la sortait de l'ourlet de son pantalon et la montrait à Elisha, qui avait encore un peu d'encre de chenille sur ses mains. « Voilà mon secret, » dit-il en tenant la pierre entre ses doigts. « Mon père me l'a confié. Je vais la cacher ici, dans la grotte du lac. S'il m'arrive quelque chose, tu sauras qu'elle est là. » Il alla vers le fond, s'éclairant avec une brindille enflammée. Il la leva vers un portrait d'Elisha qu'il avait représenté seul, accroupi, le menton dans les mains, grandeur nature. Il perça le bois à l'endroit d'un des yeux du dessin et mit la pierre à la place de la pupille. La petite flamme s'éteignit. Toby se tourna vers la vraie Elisha. Elle était debout devant le feu, en contre-jour. Elle dit : « Ne te livre pas, Jomit, je vais t'aider. »